Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 87. Flamme Cuche médaille d'or, Alsacienne américaine et amertume sur la route du vin. Chers amis, bonjour. Parfois, quand on dit « ouf », c'est que cela s'est bien passé. Mais non merci, on n'en reprend pas. Alors là, je parle des Jeux Olympiques. Vous savez, ceux qui ont à la télé trouvé cela fort sympathique. Les journaux disaient que nous étions tous à l'unisson et nous n'avions pas connu une telle ferveur depuis la libération. Alors, il y a eu un truc rigolo avec les inoffensives drag queens qui ont squatté l'ouverture des Jeux. Et avant une lamentable opération commerciale pour remplir les caisses en faisant passer une grosse bougie but à gaz dans les rues des provinces, Strasbourg n'a pas été épargné. Bon, c'est mon avis, mais il paraît que Place Brandt, à Strasbourg, on a démonté les échafaudages parce que cela faisait moche à la télé quand la flamme olympique est passée. Alors dans notre émission enflammée, vous l'avez bien connue, on s'amuse avec le temps qui passe. Et là, juste un rappel, la première fois qu'il y a eu une course de relais avec la flamme olympique, ce sont les nazis qui l'ont inventée. Ce fut pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, pour traverser tous les pays du Troisième Reich. Alors dans notre belle émission, on joue avec le temps passé, mais on joue aussi avec le hasard. Et pour cet épisode 87, on va donc raconter comment la flamme olympique a inspiré, chez nous, en Alsace, un concours de tartes flambées. Puis on rencontrera un soldat américain qui deviendra papa d'une petite Mary alsacienne à la libération. Et oui, elles sont jolies les Alsaciennes, mais iront-elles jusqu'au bord du Mississippi? Et puis troisième histoire, celle que l'on redoute tous, parce que lorsque cela vous arrive, on se dit que cela pourrait être nous, là, dans cette situation, lorsque cela arrive, la lente déchéance par l'alcool d'un sympathique père de famille sur la route du vin. Alors à chaque épisode, vous le savez, une musique judicieusement choisie et le même disque pour chaque passage, ce n'est pas de la musique bouche-trou, et aujourd'hui, un duo de country music, The Judds, la mère et la fille, Naomi et Wynonna, un disque où j'ai trouvé cette amertume qui correspond à notre recherche de ces histoires perdues, avec par exemple le titre « Why not me ?»« Pourquoi pas moi ?» Première histoire donc, la flamme all qui pique, avec beaucoup de crème, des oignons et des lardons, « mit zwiebeln, speck, ne ?» Voilà, je me racle la gorge parce que les lardons passent mal. Ce n'est pas la vraie. Nicht schlimm, das ist egal. Nous sommes en cette journée universelle de la paix, le mardi 25 juin 2024 à Schaeffersheim. Demain, mercredi, le feu sacré arrive à Strasbourg. Alors c'est au nord du village. La flamme a été allumée au sud. À Olympe, elle traverse le pays par relais de valeureux sportifs et, dit-on, on a dépensé dans le Bas-Rhin 180 000 euros pour voir passer le symbole brûlant. Mais là, les Tchios en Alsace, il y en a des chamars, les offices et les affiches J et O, comme des publicités pour un supermarché, évoquent certes la fraternité universelle, mais font surtout penser à des dépenses extravagantes, à la corruption, au dopage et au risque de terrorisme. On leur a un peu forcé la main. Et les conseils municipaux des grandes villes font le pari de la rentabilité en termes de notoriété, en sacrifiant à la démagogie d'un pseudo-engouement populaire de pacotille. De nombreux villages veulent bien être de la trêve et de la fête, mais n'ont guère envie de participer, parce que l'essentiel étant de s'amuser, de participer à une telle dépense, une caravane de champions enflammés et peu écologiques parcourant la rue principale. Donc, celle-là, c'est une fosse. La flamme, on l'a fabriquée avec un long bâton doré surmonté d'une torche en chapiteau ionique, ornée de 24 cannelures, et la veille du passage de la torche olympique officielle, on allume celle de Schaeffersheim avec de l'huile de barbecue. Elle est gratuite et cela fait un bien plus bel effet fumeux que la cartouche de gaz propane compétente. L'on s'amuse sous la banderole la flamme all qui pique, hein, pour flammekuchen. All you can eat, buffet illimité, et qui pique comme des orties, il y en a plein dans les sous-bois en cette saison. Alors le président du club sportif, Michel Bréal, est une sacrée personnalité. Il a fait ses études à Wissembourg, il a écrit un livre sur la mythologie grecque, et c'est son ancêtre qui a suggéré au baron Pierre de Coubertin de réinventer le marathon dans les Jeux olympiques modernes en 1896. Le Michel Bréal de 2024 va lui aussi inventer une épreuve olympique, et celle-là typiquement alsacienne. Il adapte pour Schaeffersheim le discours qui sera prononcé par les sommités dans la capitale européenne. Bienvenue à la flamme en terre de réconciliation, de paix et de démocratie, d'oignons et de lardons. La foule est enthousiaste, les bus des travailleurs frontaliers à l'art fait traverser le Rhin à quelques coureurs locaux. Ils exhibent la torche, la vitre ouverte, voilà pour respecter l'esprit international. Et cela fait un peu de publicité pour le village. Car c'est un événement. Après l'inauguration du nouveau cimetière en 2017 et la rénovation de la toiture de la chapelle Saint-Blaise en 2018, voici maintenant, 2024, l'épreuve de la tarte flambée olympique. Alors il y a d'abord des éliminatoires. On chronomètre la vitesse pour avaler une tarte homologuée, 313 grammes, 33 cm de diamètre, pâte à pain au levain. Puis des huitièmes, des quarts, une demi-finale, et le concours de la finale est retransmis sur un grand écran installé entre la rue Haute et la rue du Merle. Le vainqueur a réussi une vitesse de mastication équivalente à 37,58 km/h. C'est digne de Dusenbolt. Le vainqueur étant d'ailleurs une femme, la patronne de Chez Brigitte, le salon de coiffure à côté du restaurant à la Couronne. Les épreuves suivantes se déroulent par groupe de 4 concurrents et, à la lueur de la torche mythique en ce moment historique, la flamme all qui pique brille comme un symbole de dépassement de soi et d'esprit technique. Pourquoi pas moi ? C'était Why Not Me par les Judds. The Judds, la maman Naomi, était infirmière avant d'être chanteuse. Hein, c'est un duo avec sa fille Wynonna. un enregistrement de country music en 1984. Deuxième récit, dans vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg, il nous plonge dans les journées de la libération de l'Alsace. Les Américains qui se battent parfois au corps à corps, les villages où la population est terrée dans les caves, et parfois on y abrite un soldat blessé. Alors moi j'imagine qu'il y a peut-être parfois un soldat américain et un soldat allemand, deux blessés côte à côte, et c'est la même jeune fille qui les soigne, parce que les civils, c'est souvent ce qu'ils faisaient, ils soignaient les soldats blessés. Mais c'est peut-être une autre histoire. Alors là, dans mon histoire, il s'appelle Johnny, il est blessé, et c'est Mathilde qui le recueille. La belle Mathilde. Proud Mary, la little girl de Gert Willer in the USA. C'est une histoire pleine de regrets. On la dirait inventée. Elle est banale comme les noirceurs de la nuit qui tombe le jour où l'on a pris une décision pour la vie. Personne ne peut dire que cette histoire est triste. À vous aussi, cela pourrait arriver, et ce jour-là, vous direz « Finalement, j'ai fait le bon choix. Why not me ?» Cela se passe à Gert Willer, là où les Américains sont arrivés en même temps qu'à Bar, le 28 novembre 1944. Les Allemands sont en embuscade avec des nids de mitrailleuses. Les combats sont parfois au corps à corps, sans savoir de quel côté on vous tire dessus. Et ils sont terribles. La population se cache. Les gens savent que ce sont les libérateurs qui se battent. Dans les maisons, il y a déjà des morts. Mathilde, une jeune maman, se terre avec une petite fille de 4 ans. Le papa est un Alsacien allemand qui est parti au front le 22 juin 1941 conquérir le Lebensraum, et depuis, elle n'a jamais eu de nouvelles, aucune nouvelle du papa. Les tireurs d'élite allemands font d'impitoyables cartons. 90 soldats américains sont tués et 13 tanks détruits. Des deux côtés, des blessés et des prisonniers. La compagnie US des lieutenants Robert Wheeler et John S. Walton a ordre de se replier et de contourner Bar pour maintenir l'offensive vers Obernai. On abandonne les chars en feu, les blessés, les morts, les disparus. Le Tech 5 Johnny, alors Tech 5 c'était le nom des soldats américains de base, hein. Donc le Tech 5 Johnny, qui avait été envoyé en reconnaissance et que l'on n'avait pas revu, arrive le lendemain après avoir rampé, blessé, pour traverser tout le village. Il se réfugie par hasard dans la maison de Mathilde et la première chose qu'il demande, c'est une cigarette. Les habitants soignent les blessés, certains soldats américains parlent allemand, leurs parents avaient fui l'Allemagne en 1933 ou même avaient émigré au début du siècle. Les enfants vont déposer des fleurs sur les cadavres des soldats. On entend encore des explosions. Johnny survit et se remet peu à peu. Mathilde tombe amoureuse du courageux soldat. Quand elle est enceinte, Johnny lui propose de partir avec elle en Amérique. Il ira dans un hôpital à Camp Phillips, à Salina, il aura une place sur un bateau, mais non, il reste à Gert Willer pour elle. Il est blessé, il est disparu, il n'existe plus, la guerre continue sans lui. Quand la petite Mary naît, il supplie Mathilde de rentrer avec lui. Il adoptera sa Gretel de 4 ans, la vie est belle dans le Kansas. Et Mathilde, elle dit « Oui, peut-être, pourquoi pas, why not me ?» Sa maman répète « Mais vas-y, tu feras des études d'infirmière !» Sa maman qui avait tant rêvé faire ses études d'infirmière. « Allez, vas-y Mathilde, va aux États-Unis » Et puis, le Karl est revenu. Il avait réussi à s'échapper d'un camp de prisonniers en Russie. Il a traversé toute l'Allemagne à pied. Personne ne l'a reconnu. il ne disait rien. À Mathilde, il a souri. Elle a compris qu'il disait « Je suis rentré pour toi ». Elle a voulu dire à Karl qu'elle partait en Amérique et elle est restée. Aujourd'hui, la petite Mary, qui est donc née en 1945, est une vieille dame. Elle a été infirmière et quand elle a pris sa retraite il y a 20 ans, elle a cherché les traces de son papa américain. Et elle a trouvé tout de suite, grâce à un cercle de généalogie en contact avec les archives de la US Army sur Internet. Et chaque année, Marie, l'Alsacienne, est fière de prendre l'avion pour l'Amérique et elle va rendre visite à son autre sœur qui vit au bord de la rivière Mississippi. Elle écoute Creedence Clearwater Revival. Proud Mary! C'était Bye Bye Baby Blues par le duo The Judds de la country en 1984. Troisième histoire, alors le titre est un peu ironique, La route du vin, On the Road Again. C'est un chemin familial car toute la famille va se désespérer du soudain alcoolisme du papa. C'est une route difficile à suivre avec celui que l'on aime et qui reste un gentil bonhomme mais qui exprime tant de lassitude, tant d'amertume pour lui-même, probablement pour le temps perdu à vivre, une vie qu'il trouve maintenant insignifiante. Alors pourquoi pas quelques bons petits verres ? Être un homme libéré, c'est pas si facile. La route du vin. Il a commencé à boire le jour de sa retraite. Non par dépit, ni pour une quelconque angoisse, il était plutôt content de cesser son boulot de semi-larbin et il avait maintenant le temps pour plein d'activités. Il était engagé dans l'associatif dynamique depuis toujours. Sa vie de famille était belle comme des ans qui se répètent et cela semblait tellement rassurant. Il aimait faire plaisir et l'on se creusait la tête pour trouver comment lui faire plaisir. C'était parfois un peu décevant, mais il savait être convaincant en remerciant chaleureusement. C'est une autre façon de faire plaisir. Peut-être était-ce par défi, comme un jeu avec lui-même. Alors cela ne parut pas être une décision délibérée, ce fut comme cela, c'est tout. Il ne picolait pas en cachette, hein, pas de petits tours dans un débit de boisson, non. Il se versait de bons verres à table. Et de temps en temps, il prenait un whisky ou une lipée de schnapps de framboise au goulot, ou bien ce qu'il trouvait dans sa cave, qui avait toujours été bien remplie. Il disait avoir de bonnes bouteilles pour quand il y avait des amis à dîner, répétant avoir toujours aimé le bon vin, mais avouant, en riant, ne pas y connaître grand-chose. Il expliquait être incapable, par exemple, de faire la différence entre un Bourgogne et un Bordeaux. Au restaurant, il savait choisir la bouteille. Alors il prenait juste au-dessus de la moins chère et il savait aussi ne pas jouer au snob en écoutant le sommelier le baratiner. Les bouteilles partirent vite, surtout quand il commença le vin l'après-midi. Pour les fêtes, il recevait des courriers de producteurs du Languedoc qui proposaient des conditions exceptionnelles. 2 cartons achetés, un carton offert, frais de port offert également. À la calculette, cela faisait 4,53 € la bouteille, la bonne affaire. La grande affaire, c'était de sortir avec les cadavres. Il y avait un conteneur sur la place au bout de la rue. Il fallait choisir la bonne heure pour ne pas déranger tout le quartier avec le bruit de la bouteille qui éclate au fond de la caisse métallique et qui résonne dans la mémoire de l'homme qui a soif. Il est terrible le bruit de la bouteille qui se casse dans la mémoire de l'homme qui a soif. Merci Jacques Prévert. Il n'éprouvait aucune gêne à susciter les ragots des voisins qui levaient subrepticement le rideau pour l'observer. La famille s'est mobilisée avec des stratégies plus ou moins subtiles. Le baratin, la culpabilisation, les questions, les crises de nerfs, les conciliabules en tête-à-tête ou en conseil de famille. Il souriait, il répétait « oui, si vous voulez ». Il jouait à être sincère, mais en fait il était indifférent. Les camouflages de bouteilles, les tentatives d'inscription aux alcooliques anonymes, les allusions nigaudes aux campagnes sèches Dry Week, tout cela le rendait plutôt conciliant, merci beaucoup. Et bien sûr, il ne changeait pas d'un pouce ses nouvelles petites habitudes. En fait, il n'avait pas d'habitude. C'était sa vie, c'est tout, sans routine, si ce n'est de lever constamment le coude. Des années passèrent. Un jour, sans aucune raison apparente, sans aucun fait notoire déclencheur, il cessa de boire. Il ne dit rien, non, simplement, il ne se versa plus de vin à table, il laissa les bouteilles d'alcool en évidence dans le placard de la cuisine sans y toucher. Stop ! On pensa qu'il se testait. Eh bien non, malgré les hectolitres qui avaient transité dans son palais, il n'était pas alcoolique, il pouvait boire de l'eau toute la journée sans ressentir le moindre manque. Même l'ivresse, la légère ivresse qui vous emballe comme un papier cadeau un soir de Noël, rien, cela ne lui manquait pas. Avait-il seulement aimé cette brume dans la tête, ce flottement, certainement artificiel, qui vous détache des insignifiances, qui vous entoure parce que vous êtes plutôt de nature mélancolique, parce que les souvenirs de vos années de jeunesse deviennent insipides, parce que vos lectures enthousiastes vous rappellent que la véhémence du désir et la fleur même de la sensation étaient perdues? Avouerait-il que ses ambitions d'esprit avaient également diminué? Personne de sa famille, ni de ses amis, n'osait diagnostiquer cette évolution, à part chuchoter qu'on était content pour lui. On constata que, plus prosaïquement, il ne reprit pas le volant, qu'il avait abandonné depuis longtemps. On nota aussi que les sourires qu'il voyait en catimini l'exaspéraient. Il avait dû imaginer les connivences en famille pour décider de faire comme si de rien n'était, d'éviter absolument toute allusion, toute félicitation. Rien. Mais surtout pas de tentation. C'est lui qui s'amusa à jouer avec leurs nerfs. Le jour de la choucroute, tradition des dimanches de visite familiale avec les gamins qui s'étouffaient en avalant les knacks plongés entiers dans la gorge, à avaler sans mâcher et avec les considérations sur les clous de girofle que tout le monde s'accordait à trouver trop envahissants, à la rigueur, ajoutait en fin de cuisson quelques baies de genièvre, il passa dans la cuisine, goûta délicatement le chou juteux et déjà cuit, il descendit à la cave, dégota une bouteille de Riesling et l'ouvrit tranquillement devant sa femme et sa belle-sœur, tétanisées. Il prit un verre, se versa deux larmes, les avalant en disant « pas mal » et proposa d'en verser un verre dans le plat. Le vin frémit de plaisir sur la paroi chaude de la casserole et le grésillement résonna comme éclaterait la Marseillaise après un discours le 14 juillet, d'abord timidement, puis avec une belle insolence désinhibée. Les murs de la cuisine furent témoins de l'abasourdissement de la famille. Tous soudain accoururent, affairés à donner un coup de main à la cuisinière. Il y eut un irrévérencieux « Mais c'est pas vrai !» dont le chuchotement fut étouffé par un nom qui voulait en dire long. Puis la seule qui ne l'avait jamais houspillé ricana en marmonnant « Tu manques pas d'humour !» ce qui le laissa complètement impavide. Il semblait berner son monde avec un visage à la Buster Keaton, et c'est égoïste de rester apathique face au déversement de bons sentiments dégoulinants. Il emporta la bouteille à table et commanda « Tu nous sers ?» Et pour ne pas embarrasser son épouse, il tendit son verre, le verre à eau, de devant son assiette. Avait-il seulement perturbé le cours tranquille des fadaises de la famille en picolant ? Jamais il n'avait élevé la voix ou fait montre d'irascibilité. Son alcool ne rentrait pas dans la catégorie des clichés dénoncés par la société, avec son cortège de violence et de vomi. Un an plus tard, il se remit à boire, et chacun sut qu'il n'y avait pas d'explication à trouver. On chercha pourtant des indices. Il ne disait rien, toujours actif, comme ses amis retraités, membres de nombreuses associations. Sa fille, un jour, en tête à tête, lui demanda « Mais papa, tu es heureux ?» L'année suivante, il mourut. Ce n'était pas le foie, ce n'était pas l'alcool, ce n'était pas une mauvaise santé qui se dégradait ou une maladie sournoise non décelée, rien. Il cessa simplement de vivre. On ne trouva aucun mot, pas de lettres, où il aurait dit « pardon », d'ailleurs pourquoi il n'avait pas pris de disposition testamentaire, ce qui intrigua le notaire. Il n'avait simplement plus envie de fredonner la belle chanson de Gainsbourg, chantée par Françoise Hardy, qu'il avait un jour rencontrée dans les coulisses d'un concert au Palais des Fêtes. « Comment te dire adieu ?» Devant la fosse, le cercueil au fond, sa gentille fille chérie adorée, qui n'avait depuis longtemps plus donné l'occasion à son papa de lui susurrer cette ritournelle en quatre mots, prit d'un grand geste toutes les roses blanches qui attendaient les affligés et jeta ce gros bouquet d'un coup sur le bois verni. Elle avait à côté d'elle deux grands sacs Ikea criards. Elle sortit des bouteilles, des tire-bouchons, les distribua et commença un jeu de sommelier en versant du bon gros rouge sur le papa, tapis au fond de son capiton de fausse soie blanche dans sa mystérieuse et maintenant éternelle carapace de hêtre naturel, un bois qui a l'élégance de la tristesse, indiquait l'étiquette aux pompes funèbres sur le cercueil. Elle leva une tête neutre, puis fit un petit sourire bien étudié qui disait « À vous !» Personne n'osa exprimer, être offusqué. Et voilà, c'est la fin de cette histoire et c'est la fin de notre épisode nouveau 87. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.